Monde. Hey, Herman, t'es là! Wow! Hey, lève-toi de nouveau, là, beau-père, comme il disait hier. Félicitations, puis Yvonne. C'est ça qu'il m'a dit hier. Il dit, normal, je suis un beau-père maintenant. Ah, c'était une belle expérience, ça a été un beau mariage. Oh, oui, c'est ça. Non, c'est ça, c'était le père, oui. Herman le père, senior. Parce qu'ils ont les mêmes noms, hein, Herman papa et Herman le fils, c'est sûr. Eh bien, dans quelques jours, c'est arrivé. On est arrivé dans le fond. On arrive à Noël. Et puis, on veut célébrer définitivement la naissance de Jésus-Christ, comme on vient de le chanter ce matin. On veut certainement remercier Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait. Et surtout de ce qu'il est venu. Ça change tout. Il y a même un livre qui a été écrit, « Si Jésus n'était pas venu, comment la terre se serait? » Un magnifique livre, et je vous encourage à le lire et vous le procurer. Noël, c'est ça, on veut célébrer la naissance et la venue de Jésus-Christ. C'est toujours une grande nouvelle lorsqu'on parle d'une naissance. Lorsque vous avez un enfant, c'est tout de suite la réaction que vous avez, c'est téléphoner tous vos proches, téléphoner votre famille, vos amis, vous voulez le dire à tout le monde, hein? Quand on a un enfant, tout de suite, c'est instantané. On veut avertir tout le monde. On téléphone nos proches, nos oncles. Et on veut que tout le monde le sache. Et moindrement qu'on parle à quelqu'un qui attend un enfant, surtout quand c'est son premier enfant, on l'écoute parler et il y a toute une anticipation qui est là. Et il nous parle de ses rêves, que ce soit papa ou maman. On entend parler de qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'enfant. Il y a des rêves, il y a des ambitions, il y a toutes sortes d'attentes. Les gens se voient déjà, c'est un petit gars. Ma fille vient d'apprendre cette semaine qu'elle attend, elle a eu son échographie, Katia, ma plus vieille. Elle va avoir un petit garçon. Elle a déjà une petite fille, elle s'en vient dans quelques jours à la maison. Elle demeure à Fermont. Ils vont demeurer chez nous pour quelques jours. Et c'est un petit garçon qu'ils attendent. Fait que Mathieu a déjà hâte de jouer au volleyball avec son petit gars, puis faire du sport, l'emmener à la pêche. Vous savez qu'à Fermont, c'est un endroit de pêche. Mais au bout du compte, dans le fond, soyons honnêtes, on n'a aucune espèce d'idée qu'est-ce que nos enfants vont devenir puis qu'est-ce qu'ils vont faire. Par exemple, moi, Julie, ma deuxième fille, on était certain qu'elle deviendrait vétérinaire. Elle nous l'avait dit d'ailleurs dès son jeune âge, jusqu'à l'adolescence. Ça, c'était, elle n'arrêtait pas de dire à tout le monde qu'elle serait vétérinaire. Elle aimait tellement les animaux. Finalement, on ne pouvait plus attendre parce qu'elle n'arrêtait pas de nous dire qu'elle voulait avoir un chien. Finalement, on a acheté un dalmatien. Dalmatien, c'est très beau, mais le quotient intellectuel, ça dépasse pas deux. Je vous le dis, ça n'a pas de bon sens. À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui passait dans le rang d'avant, partait à courir puis rentrait sa tête dans la fenêtre. C'était essayer de la Mais il était tellement beau que tu pardonnais tout, hein. Fait que là, notre fameux chien, c'était pas assez. Julie voulait avoir d'autres animaux, puis elle nous l'avait pas dit, puis elle s'était acheté un hamster. Puis elle avait caché ça dans sa garde-robe. Mais tu sais, dans le couloir. Ah ouais, puis, tu sais, c'est comme. C'est pas le chien. Ça sent pas le chien, là, tu sais. Puis nous autres, on détestait les genres de souris ou les rats, je sais pas, appelle ça hamster. Pas capable. Mais Julie, elle a essayé de le garder pendant plusieurs semaines sans nous le dire. Puis elle l'avait dans son garde-robe. Puis elle en prenait soin jusqu'à temps qu'il est mort. Là, il est mort dans sa garde-robe. Puis c'est ma femme qui déteste ça, qui était avec un crayon, puis elle poussait pour voir si c'était vraiment mort. Fait que là, on était convaincus que Julie deviendrait vétérinaire. D'ailleurs, elle s'est mariée. Elle n'est pas devenue vétérinaire. Et elle s'est mariée, puis elle a eu des enfants, puis elle a eu des petits chiots, des petits chiens. Elle a voulu élever une marque de chiens en particulier. Là, elle était rendue avec quasiment 8 petits chiots dans son garage, puis avec son golden en plus, c'était plein de chiens. Savez-vous ce qu'elle a fait? Cette expérience-là l'a tellement traumatisée qu'elle a tout vendu ses chiens, toute la gang, elle a même donné le golden, elle les a tous, ça finit, elle ne veut plus rien savoir d'avoir des animaux chez elle. Fini. Pierre de vétérinaire, oubliez ça. Mais c'est drôle, parce que pendant des années, on s'attendait qu'elle deviendrait vétérinaire. Mais honnêtement, on n'a vraiment aucune idée ce que nos enfants vont faire plus tard, puis ce qu'ils vont être. C'est tout à fait différent avec Jésus-Christ. Jésus-Christ est tout à fait particulier et tout à fait différent de tous les autres enfants. Imaginez, Jésus lui-même, à sa naissance, dans la ville de Bethléem, tout ce dont nous avions besoin de savoir sur cet enfant-là a déjà été révélé depuis le début. Déjà ça, c'est très particulier et c'est très différent des autres enfants. On savait déjà pas mal tout sur Jésus avant même qu'il vienne au monde. Tout a été dit sur ce qu'il est, pourquoi il est venu, ce qu'il va faire et l'impact qu'il aurait sur le monde. C'est tellement différent avec Jésus. Voici ce jeune couple, Marie et Joseph, des gens bien ordinaires, ayant un enfant qui est remarquable et dont le destin était déjà tout tracé d'avance avant même qu'il naisse. Particulier quand même. Quel enfant a déjà sa vie décrite avant même qu'il ne vienne au monde? Quel enfant connaît-on déjà le caractère, les œuvres qu'il va accomplir et l'impact qu'il aura même avant qu'il les accomplisse? Voici une naissance tout à fait unique. 700 ans avant Jésus-Christ, avant la naissance de Jésus-Christ, on connaissait déjà son nom. C'est certain que cet enfant allait être unique, remarquable, et incomparable. D'ailleurs, on peut comprendre la réaction de ses parents qui entendent des leçons qui sont données, des révélations qui sont données à l'endroit de leur fils. La réaction de Marie et Joseph, en écoutant ce qu'on disait sur cet enfant-là, nous lisons dans Luc 2, son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Mais qu'est-ce que l'on a vraiment dit de lui qui est si étonnant que même ses parents étaient dans l'admiration? Nous avons un début de réponse avec l'ange qui vient voir Marie et nous avons cette scène qui nous est révélée dans Luc chapitre 1, verset 26. Alors, je ne sais pas si vous avez votre Bible avec vous, on vous encourage à tourner dans l'Évangile de Luc. Matthieu, Marc, Luc, alors c'est le troisième livre du Nouveau Testament, c'est facile à trouver. Vous êtes capable de trouver Marc, là, vous allez parcourir quelques pages et vous allez tomber sur Luc. Oui, Bertrand se promène avec une Bible. Si jamais vous n'avez pas de Bible avec vous, ce serait intéressant de pouvoir d'en avoir une. Vous levez la main, Bertrand va vous en distribuer une, d'accord? Luc, chapitre 1, verset 26. Luc 1, 26. Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et elle qui était appelée stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu.
Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Voilà des paroles d'un ange. Et les paroles qui ont été données à Joseph également, un peu plus loin que l'on voit, l'ont également surpris. Et ont rendu ses parents émerveillés par l'enfant qu'ils allaient avoir. Regardons certaines de ces révélations de Jésus-Christ que nous avons dans ce passage. Regardez ce que l'enfant, l'ange dit de l'enfant, Jésus, qui va naître. Au verset 32, il est dit, « Il sera grand. » Maintenant, on ne parle pas évidemment de sa stature. Il n'est pas en train de dire ici qu'il va mesurer 6 pieds, 6 pieds 1, 6 pieds 2, 6 pieds 3. On ne parle pas de ça ici. Le mot d'ailleurs employé par l'ange est un mot qui parle de grandeur, de magnificence. On parle ici d'un mot qu'on employait quand on veut parler de quelque chose de splendide, de remarquable, voire même extraordinaire. Ce que l'ange est en train de dire, c'est que l'enfant qui va naître sera extraordinaire. Tout à fait remarquable. Mais en quoi est-il grand? Quelle est cette grandeur? Eh bien, l'ange souligne ici 5 aspects sur la grandeur de cet enfant. Premièrement, l'ange dit que Jésus est Dieu. Il sera grand, verset 32, et il sera appelé Fils du Très-Haut. Quand l'ange fait référence à Dieu, il l'appelle le Très-Haut, le plus haut. On le voit d'ailleurs encore au verset 35, l'ange va dire, l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Le Très-Haut parle de la souveraineté de Dieu, de sa grandeur. C'est un nom qui a été donné déjà dans l'Ancien Testament, El Elyon, qui veut dire, ça parle de la grandeur et la suprématie et la supériorité de Dieu, qu'il est au contrôle, qu'il est souverain, il le contrôle tout. Ça parle donc de sa supériorité. Et ce que ça veut dire, c'est que personne n'existe qui est supérieur à lui. Dans l'Ancien Testament, donc, cette expression fait référence au Très-Haut. C'est un nom qu'on voulait donner, qu'on servait lorsqu'on parlait du Dieu Très-Haut. Et ce que l'on voit, cette expression dans l'Ancien Testament, El Elyon, le Dieu Très-Haut, lorsqu'on le voit dans l'Ancien Testament, on le voit dans différents contextes. On voit que Dieu est souverain, premièrement, sur les nations. Par exemple, on voit dans le psaume 47,3, « L'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. » Daniel, plus de 4 fois, va se servir de la même expression pour parler de la domination de Dieu sur les hommes et qu'il donne le règne à qui il veut. C'est Dieu qui décide. Donc, il contrôle même l'histoire, même les politiques. Dieu est en haut et il orchestre les nations. Tous ces versets nous disent que le Très-Haut est souverain sur les nations. Le même nom, El Elyon, le Dieu Très-Haut, est employé dans un autre contexte pour démontrer la suprématie et la supériorité et la souveraineté de Dieu, non seulement sur les nations, mais aussi sur la nature. Nous lisons, par exemple, dans 2 Samuel 22,14, nous voyons le Très-Haut qui est souverain sur la création. Nous lisons, verset 14, « L'Éternel tonna des cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix. » Le Très-Haut est donc souverain sur les nations et sur la nature. Mais troisièmement, on voit ailleurs dans le psaume 9 qu'il est souverain sur les pécheurs. Nous voyons dans le psaume 21,7 qu'il est souverain sur les justes. Alors non seulement Dieu est souverain sur la nature, la création, les nations, sur les pécheurs et sur les justes, mais il est souverain sur tout. Il est souverain sur la création, sur tout, sur la nature. Personne n'est égal à Dieu. Et pourquoi c'est si important de s'arrêter sur ce détail? Eh bien, regardez les paroles de l'ange à Marie. Verset 32, « Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Et il sera grand et il sera appelé Fils du Très-Haut. » Il est le Fils du Très-Haut. En d'autres mots, ce que ça signifie, c'est de dire que Jésus a le même caractère, la même nature, l'essence du Très-Haut. Jésus est donc la même nature que Dieu lui-même. D'ailleurs, l'auteur aux Hébreux, c'est ce qu'il dit, le livre aux Hébreux qui cherche à démontrer la supériorité de Jésus sur tout. Le livre aux Hébreux a pour objet de démontrer justement la suprématie de Christ. Il va démontrer dans le livre aux Hébreux comment Jésus est supérieur aux anges, à Moïse, au sabbat, il est supérieur aux sacrificateurs, il est supérieur même de la maison de Dieu, de la demeure de Dieu, qui est le temple. Alors l'auteur aux Hébreux, qui cherche à démontrer la supériorité de Jésus sur tout, ouvre son livre en disant ceci au verset 3, Hébreux 1:3, qui dit ceci, « Le Fils est le reflet de sa gloire, de la gloire du Dieu Très-Haut, et l'empreinte de sa personne. Il soutient toute chose par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. » Le Fils est la réplique du Père. Et c'est ce que le livre aux Hébreux veut démontrer. La supériorité de Christ. Un jour, un pasteur témoignait à un juif qui n'était pas chrétien, un juif orthodoxe, et il lui parlait de Jésus-Christ. Et le juif a entendu parler de Jésus juste comme ça, ici et là, et le pasteur lui a dit, « Écoute, si tu veux avoir une bonne idée de Jésus, qui il est, prends l'Évangile de Jean et lis l'Évangile de Jean du premier chapitre jusqu'à la fin. Et on va se voir après que tu auras lu ça, et on va s'en reparler. » Alors le juif est parti, a lu l'Évangile de Jean, est revenu retrouver le pasteur, et le pasteur lui demandait, « Puis, qu'est-ce que tu penses de Jésus maintenant que tu as lu l'Évangile de Jean? » Remarquez bien ceci, aucun commentaire, personne à côté de lui pour expliquer quoi que ce soit, pas de commentaire biblique, aucun autre livre que l'Évangile de Jean. Et le juif est allé chez eux, un non-chrétien, entre chez eux, lit l'Évangile de Jean, et après avoir lu l'Évangile de Jean, est retourné voir le pasteur, et quand le pasteur lui a demandé « Qu'est-ce que tu penses de Jésus? » Il est arrivé à la conclusion de ceci. Il a dit « Jésus est Dieu. » Juste en lisant l'Évangile de Jean. « Jésus est Dieu. » Maintenant, Marie ne réalisait pas la profondeur et l'étendue de cette révélation que l'ange est en train de lui donner à l'endroit de son fils. Mais nous savons bien, de par le reste des Écritures, que c'est le sens des paroles qui arrivait à Marie ce jour-là. Le Fils, il sera appelé, ton enfant sera appelé le Fils du Très-Haut. Et ce que l'ange est en train de dire, c'est qu'il sera de la même nature que le Très-Haut, celui qui domine les nations, celui qui domine la nature, celui qui domine les pécheurs comme les rachetés. Et c'est exactement ce qu'on voit dans le reste des Écritures. Jésus est Dieu. Alors, le premier message qui vient aux parents et qui parle de la grandeur de Jésus, c'est qu'il est Dieu. Souverain. Jésus est souverain sur la nature, les pécheurs, les rachetés. Deuxième aspect, c'est que Jésus est également un homme. Au verset 31, nous lisons, « Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Pourquoi passer par une femme? Dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu voulait se manifester, il le faisait. Par exemple, en plein dans le désert, Dieu restait dans la tente d'assignation, la tente du rendez-vous. C'était là que Dieu était, c'était sa présence, et Moïse allait à sa rencontre. Dieu aurait pu venir directement juste comme ça. Non, il choisit de passer à travers une femme. Pourquoi? Pour devenir un homme. Il passe à travers une femme. Et Jésus est né après 9 mois de grossesse et il est parfaitement un homme. Voyez-vous, Jésus est parfaitement Dieu, mais il est également parfaitement un homme. Il a eu une conception miraculeuse, mais sa naissance reste naturelle et il s'agit d'un enfant mâle. Galates 4:4 dit ceci, « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Jésus, parfaitement homme. Quelle grandeur? Bien, la grandeur dont parle l'ange, premièrement, c'est que Jésus est à la fois Dieu et à la fois homme. Jésus est un enfant miracle. le troisième aspect de la grandeur de Jésus qui le distingue dès sa naissance, c'est qu'il est non seulement Dieu, non seulement un homme, mais en plus, il est sans péché. Verset 35 dit ceci, « L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » C'est pourquoi, regardez bien le petit mot qu'on va ajouter ici, l'ange ajoute, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. Le Saint-Enfant. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Cet enfant est saint, il est parfait dès sa naissance. On sait que la naissance sera miraculeuse puisque c'est par la puissance de Dieu qu'il naîtra. Cette déclaration est assez remarquable. Le Saint-Enfant. C'est la première fois et la seule fois dans l'histoire de la reproduction humaine qu'un enfant naît saint. C'est fort. Personne n'a jamais eu un Saint-Enfant excepté Marie par la puissance du Saint-Esprit. Même Jean-Baptiste, qui est né par rempli du Saint-Esprit, n'était pas saint à sa naissance. Il n'était pas sans péché. Il est né avec une nature pécheresse, pas Jésus. Imaginez, c'est incroyable, hein? Jésus n'a jamais péché, et on lit ça dans les Écritures. Imaginez un enfant jamais rien dire ou faire qui soit mal à l'endroit de ses parents. Imagine-toi, tu as un enfant parfait. Jamais d'erreur. Jésus n'a jamais rien dit qui a froissé ses parents. Pensez-y, là. Quand on a des enfants, non. Quand on a des enfants, on les voit parfaits. C'est sûr. Mais... tu les vois plus parfaits, hein? C'est pas long que ça part, ouais. On les aime beaucoup, c'est correct, hein, on les aime. Mais, je te dis, hein? Touche pas à ça, mon petit. Touche pas à ça. Touche pas à ça. Touche pas à ça. Hey, imaginez Jésus a jamais dit un mot de déplacé à ses parents. Chérie, tu fais ça? Ça en va. C'est incroyable. Un enfant parfait! Oh. Non, mais c'est quand même... C'est dérangeant. Pensez-y, là. Marie-Joseph devait constamment se parler. Cet enfant-là, il est parfait. C'est vrai. Voyez-vous, on ne s'arrête pas à ces détails-là qui sont révélés dans les Écritures. On passe trop vite devant les Écritures dans certains passages. L'histoire de Noël, on l'entend depuis des années, mais réalisez-vous l'impact de ces paroles-là? Un enfant qui vient au monde, qui est parfait à la naissance. Voyez-vous ce qui distingue Jésus des autres enfants? C'est non seulement qu'il est Dieu, non seulement qu'il est parfaitement homme, mais voilà un enfant qui vient au monde, qui est parfait, qui est saint. Sans péché. Hébreux 4,15 dit ceci, parlant de Jésus. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Imaginez, Jésus n'a jamais commis de péché, pourtant il a été exposé à la tentation, même titre que nous. Jésus n'a jamais eu besoin de se faire discipliner, jamais eu besoin de se faire corriger. Pense à ça, là. Tu n'as même pas besoin de cours comment élever les enfants dans le cas de Jésus. Pas d'erreur, parfait. Il n'a jamais eu besoin d'être pardonné. C'est fort. Jésus n'a jamais eu besoin d'être sauvé. Moi, Jean-Guy, tu brûles. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais. Ouais, c'est vrai, ça. Wow! Jésus est non seulement Dieu, il est également un homme, qui est sans péché, il est saint. Les parents sont également surpris d'apprendre que leur enfant sera également un roi. Luc 1, 32, 33, l'ange va ajouter ceci. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il règnera sur la maison de Jacob. Et on sait que Jacob, c'était le père hein, de toutes les tribus, les 12 tribus. Donc, il va régner sur Israël. Mais son règne est particulier parce que l'ange va même dire que non seulement cet enfant va devenir un roi, mais il sera un roi éternel. C'est ça que l'ange dit. Il règnera, il règnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Imaginez Marie et Joseph. Son règne n'aura jamais de fin. Ça n'arrêtera pas. Cette prophétie, cette déclaration accomplit la prophétie de 2 Samuel 7, évidemment, où il est dit que David aura un jour un fils encore plus grand que lui et qui deviendra le roi d'Israël et dont le royaume sera celui d'une justice, droiture, et que ce royaume sera éternel. Ce fils est nul autre que Jésus-Christ. Il est né dans la famille de David, on le voit avec la généalogie de Joseph au début, et la généalogie de Marie. Il est de la lignée de David, il a donc du sang royal, il a le droit d'être ce roi. Mais non seulement ça, on voit que son règne a une portée éternelle, donc il est un roi qui est le roi des rois. On s'aperçoit qu'il va être le roi du monde, de l'univers, et ce trône sera un trône éternel. Et on apprend même plus loin dans le Nouveau Testament qu'il sera le roi, un roi éternel dans les nouveaux cieux et dans la nouvelle terre qui va être Seigneur. Pour la plupart d'entre nous, nous aurions été très heureux d'entendre que notre fils sera un grand leader un jour, que notre fils sera un croyant, un enfant de Dieu, ou encore que notre enfant sera un grand missionnaire ou un enseignant. Mais ce que l'ange dit de cet enfant est renversant. Cet enfant sera le roi des rois. Ce sera le roi de l'univers. Et on a le dévoilement de ce roi à travers le livre de Matthieu que nous sommes en train de regarder, Yannick et moi, depuis plusieurs mois. C'est ce que nous sommes en train de regarder, ce livre de Matthieu, qui est justement en train de démontrer, foi après foi, comment Jésus est ce roi éternel, le roi d'Israël. Philippiens 2, 10, il est dit qu'au nom de Jésus, un jour, tout genou va fléchir dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Imaginez recevoir la nouvelle que votre enfant sera le roi d'Israël, le roi de l'univers. L'admiration continue parce que non seulement cet enfant est-il Dieu, homme, sans péché, saint, un roi souverain, mais en plus, cet enfant sera un sauveur. Imaginez, il sera le sauveur de l'humanité. Matthieu 1, 21, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Ce qui est intéressant, c'est que dans l'original, nous avons un petit mot ici qui est intéressant et ça dit ceci. « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Imaginez le sauveur ici, l'ange qui annonce que cet enfant sera sauveur. Il me semble que ce serait assez de savoir que cet enfant serait Dieu, homme, saint, sans péché, souverain, le roi de l'univers. Mais l'ange ajoute qu'il sera le sauveur de tous ceux et celles qui mettront leur foi en lui. Quel enfant! Un chapitre plus loin, nous lisons qu'un ange va voir les bergers et leur annonce la naissance de Jésus. Il leur dit ceci, chapitre 2, verset 11. « C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Il appelle le sauveur. » Et c'est la seule place dans les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, où Jésus est appelé sauveur. Jésus est appelé sauveur ailleurs dans le Nouveau Testament, mais pas dans les autres évangiles. Il vient au monde sauveur. Siméon, qu'on a lu tantôt, Siméon, qui verra cet enfant, dira plus loin, au chapitre 2, verset 30, « Mes yeux ont vu ton salut. » En voyant Jésus-Christ, il a dit, « Mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Une prophétesse du nom de Anne voit Jésus plus loin, alors qu'il est tout petit. Et il est dit ceci à son égard dans Luc 2, 36. Il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant arrivée, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu à voir ce petit enfant et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Jésus dira plus tard lui-même, dans Luc 19, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Oui, il y a beaucoup d'admiration à la naissance de Jésus en raison de ce qu'il est. Et ses parents furent profondément émus et dans l'admiration de ce que l'on disait de lui. Siméon a dit plus loin que Jésus déterminerait le destin de chaque personne. Et nous lisons dans Luc 2, 34, « Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à emmener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui va provoquer la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Imaginez ce que Siméon, rempli du Saint-Esprit, est en train de dire. Il est en train de dire que Jésus va révéler les cœurs. C'est Jésus qui va déterminer ton destin. C'est ce qu'il est dit. Cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs. Ce que tu fais de Jésus va déterminer si tu tombes ou si tu seras relevé, nous dit ce passage. Ta destinée éternelle est entre les mains de Jésus-Christ. Ta chute dans les profondeurs de l'enfer ou ta résurrection pour jouir des gloires éternelles repose totalement sur Christ. Imaginez vous faire dire que la destinée du monde entier dépend entièrement de la relation que tu vas avoir avec cet enfant-là. Il ne s'agit pas d'un simple enfant. Parce que la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est très clair. Jésus détermine le destin de chacun d'entre nous. Et ça dépend de la réponse que tu donnes à Jésus-Christ. Que feras-tu de Jésus-Christ? On peut comprendre la réaction de Marie et Joseph dans Luc 2, 33. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Que nos cœurs bien-aimés, pendant le temps des fêtes, alors qu'on arrive à Noël, que nos cœurs soient également dans l'admiration devant lui. Prions, Seigneur. Eh bien, Seigneur, nous réalisons, juste avec cette prophétie, cette révélation de cet ange qui est allé voir Marie, que Jésus ne peut se comparer à personne. Ce n'est pas juste un prophète. Ce n'est pas juste quelqu'un, un grand docteur, un grand enseignant. Cet enfant est nul autre que Dieu lui-même. parfaitement Dieu, parfaitement homme, sans péché, un enfant parfait, le roi d'Israël, le roi de l'univers, et il est notre sauveur. Seigneur, notre destin dépend de ce que nous faisons avec Jésus. Il y a peut-être des gens dans l'Assemblée ce matin qui n'ont peut-être pas encore dit oui à Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions pour ces personnes ce matin qui sont peut-être en réflexion, qui réfléchissent à ce qu'ils vont faire de Jésus. Mais Seigneur, nous te prions que tu puisses toucher leur cœur ce matin, réalisant que leur destin est entièrement entre les mains de Jésus. Oh, que personne ne quitte ce lieu ce matin sans céder sa vie et son cœur entre les mains de Jésus. Car celui qui a le Fils a la vie. Et Seigneur, nous voulons cette vie spirituelle. Nous voulons cette vie éternelle et entrer dans les gloires éternelles, dans ta présence pour l'éternité. Nous voulons passer l'éternité à tes côtés et jouir de ta présence, Seigneur. Ô mon Père, que ce temps des fêtes, ce temps de Noël, nous puissions, nous aussi, rester dans l'admiration de ce cher Jésus, parfaitement Dieu, parfaitement homme, saint, sans tache, irréprochable, le roi de l'univers et le sauveur. Ô Seigneur, nous te remercions de nous avoir sauvés. Pour tous ceux et celles qui ont dit oui à Jésus, merci de ce salut que nous avons. Merci du pardon que nous avons en Jésus-Christ. Merci d'être venu ici, d'être incarné dans la forme d'un homme pour venir nous sauver. Nous voulons passer les fêtes en pensant à toi, en te glorifiant, en te magnifiant, en restant dans l'admiration pour tout ce que tu es et ce que tu as fait. Amen.